La date du 12 décembre approche, c'est la date fixée pour le troisième référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, et le débat continue de monter, à la fois sur le plan local en Nouvelle-Calédonie, au plan intérieur, mais aussi, force est de le constater, ils s'invitent de plus en plus, et ils sont de plus en plus nombreux, à tenir ce discours et parler du dossier calédonien en France métropolitaine, le tout dans un contexte, vous le savez, de préélection présidentielle de 2022. On entend en effet de plus en plus de candidats à la présidentielle française s'emparer du dossier de la Nouvelle-Calédonie en soulignant l'importance géostratégique de son maintien dans la France, dans un contexte géopolitique qui place de fait cette collectivité française du Pacifique dans l'ensemble Indo-Pacifique. Et puis on entend aussi, de l'autre côté, ceux qui se demandent si le choix de cette date est vraiment opportun, puisque justement ça rappelle de très mauvais souvenirs. La dernière fois que la Nouvelle-Calédonie s'était invitée dans un débat présidentiel, c'était en 1988, et il avait fallu la tragédie d'Ouvéa pour que suivent des négociations menées alors par le Premier ministre de l'époque, Michel Rocard, et qu'on trouve enfin une issue pacifique, une issue qui avait ouvert, par les accords de Matignon, ouvert une période de 33 ans jusqu'à maintenant, pour ce qu'on espérait alors être une décolonisation apaisée entre la France et la Nouvelle-Calédonie. Et c'est justement ce que rappellent certains, comme par exemple un collectif de spécialistes, dont des universitaires spécialistes de la Nouvelle-Calédonie. Ils publient ce mercredi une tribune dans Le Monde, le quotidien français. Ils soulignent aussi au passage la parole donnée à l'époque par l'État français de ne plus jamais faire coïncider ce genre d'échéance électorale avec les présidentielles françaises, pour éviter justement que l'histoire se répète tristement. Or, la situation actuelle avec ce référendum maintenu au 12 décembre, malgré les demandes de report de la part des indépendantistes, c'est ce que l'un de ses signataires de cette tribune, l'universitaire Mathias Chauchat, qualifie ni plus ni moins de, je cite, une immense violence institutionnelle. Il était l'invité du journal télévisé de Nouvelle-Calédonie, la première, ce week-end. Écoutez plutôt.
Dans cette affaire, il y a un déséquilibre des moyens. Ce qui était fait par l'État, c'est une immense violence institutionnelle envers le peuple kanak. Cette violence institutionnelle, elle bouleverse les règles. Les Kanaks sont sincèrement en deuil et personne ne peut le nier. Ce que je voudrais montrer, moi, c'est la gravité de ce qui est en train de se faire. C'est-à-dire qu'on a une période de 30 ans qui a été ouverte par les accords de Nainville-les-Roches, avec d'un côté la reconnaissance du droit des Kanaks à leur indépendance et en contrepartie le partage du droit de l'autodétermination envers les autres. Les autres se servent aujourd'hui de ce partage du droit à l'autodétermination pour empêcher l'indépendance. Or, ce contrat fondamental qui nous a fait la paix pendant 20 ans, ce contrat fondamental, eh bien, il aboutit au peuple calédonien. Aujourd'hui, ce qu'on jette à la rivière le 13, c'est le peuple calédonien. Le 13 au matin, se font face le peuple kanak d'un côté et le peuple français de l'autre. Pourquoi casser 30 ans de discussion? Pour rien. Parce qu'on s'apercevra qu'à la fin, on ne peut pas faire sans les Kanaks. Faire sans les Kanaks dans ce pays, c'est impossible.
Et puis, du côté des partisans du maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France, les non-indépendantistes, ou les loyalistes, si vous les appelez aussi comme ça, certains ont adressé un courrier à l'ONU. En effet, l'ONU est en position de surveillant, en quelque sorte, de ce scrutin de référendum. Et la présidence de la province sud de Nouvelle-Calédonie, Sonia Backès, explique son point de vue.
Oui, c'est simplement pour dire la vérité à l'ONU. La vérité, c'est quoi? C'est certainement pas ce que disent les indépendantistes, c'est-à-dire que c'est un référendum qui se fait sans le peuple autochtone. Ça, c'est un mensonge. Ce référendum, il se fait avec tout le monde. Et d'abord, ce sont uniquement des partis indépendantistes qui appellent à ne pas voter. C'est pas l'ensemble du peuple autochtone, comme ils le disent, qui ne peut pas voter. Tout le monde peut aller voter. Et donc, je pense que c'était important parce que l'ONU, qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde que le processus d'autodétermination se passe bien. C'est le cas, on a eu 3 référendums incontestables, et ils regardent ensuite que les conditions de ce 3e référendum soient correctes et permettent à tout le monde d'aller voter. C'est le cas, tous ceux qui veulent aller voter peuvent aller voter, et donc il n'y a aucune raison valable de contester ce référendum. C'est important que l'État s'engage, parce que c'est vrai que ça fait 20 ans que très souvent l'État a pris le parti des indépendantistes, a cédé à un certain nombre de menaces, et là l'État simplement a conservé sa position. Il n'a pas pris parti, il a conservé sa position, et c'était pour nous un peu exceptionnel, et donc je pense que c'était important qu'il s'exprime.
Et puis en Nouvelle-Calédonie, il y a aussi des petits partis entre le camp franchement indépendantiste et le camp franchement loyaliste. Ils sont un peu entre les deux. Et en ce qui les concerne aussi, finalement, la date du 12 décembre, ce n'est pas forcément une bonne idée, comme l'explique Milakulo Tukumuli, président de ce que l'on appelle le parti Éveil Océanien.
Sommes-nous prêts? La question pour nous, elle est simple. Ben non. Donc non, pas maintenant, ça veut dire oui, le pays deviendra indépendant lorsqu'il sera prêt, mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. À partir du moment où on a deux équipes qui jouent, et il y en a une qui déclare forfait, est-ce que le résultat a un sens? On a posé 3 fois la même question en 3 ans, il y a eu 2 résultats en 2018 et en 2020, avec taux de participation exceptionnel. Est-ce qu'on prendra le dernier ou la moyenne de 2? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que le résultat politiquement du dernier référendum est déjà contesté.
On entend même parler de la Nouvelle-Calédonie ces derniers temps sur Radio France Internationale RFI, qui avait invité la semaine dernière un responsable de la tendance opposée à l'indépendance. Il est aussi député de la Nouvelle-Calédonie à l'Assemblée nationale et il s'appelle Philippe Dunoyer. Eh bien, selon lui, il faut avant toute chose restaurer un dialogue plutôt mal en point entre tous les partenaires politiques de la Nouvelle-Calédonie.
Alors, dans un scénario optimiste, mais auquel je crois, parce que je crois qu'on aura de toute façon l'intelligence collective de s'aligner sur cet objectif, il faut restaurer les fils du dialogue entre tous les partenaires. C'est essentiel. C'est-à-dire qu'il faut que tous les partis indépendantistes soient autour de la table, que tous les partis non-indépendantistes également le soient, et l'État naturellement, pour discuter des évolutions qu'il faudra apporter au statut actuel de la Nouvelle-Calédonie. Ça fait 33 ans qu'on vit sous le régime de l'accord de Nouméa, il y a quand même des choses qui ont bien fonctionné, d'autres un peu moins. Non. Un dialogue et la recherche d'un consensus, c'est la même recette qui a fonctionné en 88 pour sortir des événements, et c'est la même recette qui a fonctionné en 98 pour l'accord de Nouméa. Donc moi, j'aime bien les recettes quand elles fonctionnent.
Alors, géostratégie, Indo-Pacifique, justement, vous vous souvenez de l'énorme impact causé par cette affaire des sous-marins sur fond de nouvelles alliances annoncées et affichées entre l'Australie, les États-Unis et la Grande-Bretagne, l'Australie qui, au passage, avait alors ouvertement mis à la poubelle un accord, un contrat de livraison de sous-marins français, accord qui, évidemment, depuis, c'est le cas de le dire, est tombé à l'eau. La suite logique, évidemment, eh bien, ce sont les actes. C'est ce que, cette semaine, l'Australie a fait. Elle vient de signer un accord conforme à ce qui avait été annoncé avec les États-Unis et le Royaume-Uni. Elle s'équipera donc de sous-marins à propulsion nucléaire et non plus des diesels qui étaient prévus avec le contrat français. L'affaire avait suscité, elle continue d'ailleurs de susciter une grave crise entre la France et l'Australie, à tel point que le président français Emmanuel Macron, il y a quelques jours en marge du G20, n'avait pas hésité à livrer très franchement son point de vue quand on lui demandait s'il pensait que le Premier ministre australien Scott Morrison lui avait menti. Il avait répondu du tac au tac et en anglais. Écoutez plutôt.
Do you think he lied to you?
I don't think, I know.
Et puis on ouvre le dossier politique et électoral, ou plutôt on le poursuit finalement, puisqu'on parlait tout à l'heure de référendum. Eh bien, il y a eu aussi ces derniers jours des élections législatives au royaume de Tonga. Il s'agissait de renouveler l'Assemblée de 26 sièges, dont 17 sont réservés aux élus populaires, les roturiers en quelque sorte, et 9 sont réservés aux nobles, aux familles nobles du royaume. Alors cette année, il n'y avait que 72 candidats, parmi lesquels on comptait 12 femmes. Mais l'un des résultats les plus notables de ce scrutin, eh bien, c'est que parmi ces 12 femmes, aucune n'a malheureusement réussi à obtenir de siège au sein de cette nouvelle assemblée, désormais donc exclusivement masculine. Quant au nom du Premier ministre tongien qui devrait être élu parmi les nouveaux représentants, eh bien, il n'est pas encore connu. Tout près de là, à Fidji, c'est un nouveau président qui a été installé il y a quelques jours. Il s'appelle Ratu Williame Katonivere. Il s'agit du sixième chef de l'État depuis que le poste existe à Fidji, c'est-à-dire depuis que Fidji s'est proclamé officiellement république en 1987. Politique toujours à Vanuatu, on reste décidément dans la même région du sud-est pacifique, Vanuatu, où la majorité gouvernementale vient de quasiment manger 8 députés de l'opposition. En fait, ils viennent de se rallier au bloc majoritaire, ce qui porte donc cette majorité gouvernementale désormais à 37 des 52 députés, une majorité plus que confortable. Passons maintenant enfin du côté oriental du Pacifique. En Polynésie française, il y a quelques jours aussi, le président Édouard Fritsch, eh bien, il a nommé son nouveau numéro 2, c'est-à-dire un nouveau président. Il s'appelle Jean-Christophe Bouissou et c'est loin d'être un novice en politique. Il remplace Théari Alpha, ex-vice-président donc, qui avait été limogé tout simplement parce qu'il refusait ouvertement de se faire vacciner. Il a donc été sanctionné, certes, mais il reste quand même au gouvernement comme ministre, comme avant. Vice-présidence, parlons aussi de la nouvelle présidente de l'Université régionale du Pacifique Sud. Cette institution basée à Fidji vient en effet de se doter d'une nouvelle présidente, en la personne de Madame la présidente, déjà Hilda Heine, car c'est loin d'être une inconnue, elle est en fait la prestigieuse et ancienne présidente des îles Marshall. Une autre nomination à une présidence, celle du prestigieux East-West Center basé à Honolulu. Pour la première fois, eh bien, il vient de réaliser un double record d'une pierre deux coups, car c'est à la fois la première femme, mais aussi la première hawaïenne indigène au poste de présidente. Elle s'appelle Suzanne Poanani Vareslum et on lui souhaite bonne chance à la tête de ce prestigieux centre régional d'enseignement supérieur et de recherche, une institution fondée en 1960 par le Congrès américain. Ainsi va la vie en Océanie. Je vous souhaite une bonne semaine.